Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec Lucia Mouzel pour la rédaction brésilienne.
Voilà.
Pour nous parler du synode consacré à l'Amazonie. Alison Hurd de la rédaction en anglais.
Hello.
Pour nous parler musique. Vous êtes bien réveillée, Alison. Et Ali Reza Manavzadeh de la rédaction Persane.
De l'autre bâche.
À propos de ces iraniennes qui ont eu la permission d'assister à un match de foot pour les qualifications pour le Mondial 2022. Bonsoir à vous tous. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir l'offensive de l'armée turque contre les combattants kurdes qui, en Syrie, ont contribué à vaincre les islamistes de Daesh. Offensive lancée après que Donald Trump eut décidé de lâcher les Kurdes, même si ce vendredi, le président américain encourage fortement le gouvernement d'Ankara à interrompre ses opérations. Bref, la situation n'est pas forcément très claire, elle évolue très vite, d'heure en heure, mais faisons un point avec les rédactions en langues étrangères de RFI. Ali Reza Manafzadeh, il semble que le choix de Donald Trump avait été fait depuis longtemps.
Je le crois, et nous avons des indices pour cela. En décembre 2018, après une conversation avec Erdogan, Trump avait annoncé le retrait américain de la Syrie. Son ministre de la Défense, James Mattis, a démissionné à la suite de cette déclaration. Vous allez peut-être me dire qu'il a l'habitude de changer d'avis. D'accord, mais que dites-vous du fait que depuis le mois de mai, le nombre des soldats américains déployés en Syrie a été réduit de moitié? Ils étaient environ 2000. Je ne comprends pas l'étonnement de certains médias, mais aussi de certains alliés des États-Unis. Dès ce dimanche, Trump a donné son feu vert à la Turquie. Lundi soir, il a écrit dans un tweet « Si la Turquie dépasse les bornes, j'anéantirai complètement son économie. » Cette menace signifie que les États-Unis ne sont pas en mesure d'empêcher l'offensive turque. Ils demandent simplement aux Turcs de ne pas dépasser les bornes. Mercredi, lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, Trump a tenu des propos pour le moins très décourageants à l'égard des Kurdes. Écoutons ce qu'il a dit.
Now the Kurds are fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land. And as somebody wrote in a very, very powerful...
Donc, en résumé, que dit le président américain?
Alors, il dit, les Kurdes se battent pour leur terre et il faut que vous le compreniez. Et comme quelqu'un a écrit dans un très bon article aujourd'hui, les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie, par exemple. De plus, nous avons dépensé énormément d'argent pour les aider en munitions, en armes, en argent. Ceci dit, nous aimons les Kurdes. Il met ensuite en parallèle le problème kurde et le problème palestinien. C'est une comparaison un peu malhabile parce que les deux peuples n'ont pas le même parcours historique ni le même problème. Les Kurdes, dans tous les pays où ils sont, vivent sur leur terre. Ils veulent tout simplement créer leur propre État.
Lucia Mouzel, à la rédaction brésilienne, c'est la palinodie, c'est-à-dire le revirement et changement de cap de Donald Trump qui a attiré votre attention.
Oui, tout à fait. Le soutien des États-Unis est très important pour les minorités kurdes en Syrie, sans lesquelles elles risquent de se faire écraser rapidement. Cela fait 3 ans que Washington et Ankara sont de moins en moins d'accord sur cette présence américaine sur place. Mais la décision assez abrupte de Donald Trump a annoncé dimanche a été mal perçu même auprès de ses rangs républicains aux États-Unis. Le président américain l'a fait en toute connaissance du plan turc d'initier cette offensive militaire les jours suivants. Trump et Erdogan ont eu une conversation téléphonique pour en parler de tout cela. Les Kurdes et toutes les forces démocratiques syriennes se sentent littéralement abandonnées par leur ancien allié.
On voit que les réactions sont nombreuses. Alison Hurd, la décision de laisser tomber les alliés kurdes divise les républicains, c'est-à-dire le propre camp politique du président américain.
Oui, et ça semble être un contre-coup important. Par exemple, le sénateur Lindsey Graham, c'est un allié très très fort hein, de Trump, lui disait que la décision de Trump, s'il n'en revenait pas dessus, sera la plus grande erreur de toute sa présidence. Il a parlé d'une tâche sur l'honneur des États-Unis. Un autre républicain, John Shimkus, a parlé d'avoir planté un couteau dans le dos de nos alliés. C'est une décision terrible et détestable, il a dit. Donc ces gens-là, en fait, ils connaissent très bien l'armée, ils connaissent très bien les affaires militaires et ils connaissent le terrain. Donc on dit qu'ils ont été un peu surpris, effectivement, par la rapidité de cette annonce.
Alors, est-ce que ces critiques constituent un vrai revers pour le président américain ?
Ça, on ne sait pas pour le moment, mais certainement le timing n'est pas terrible. Hein. Au moment juste où certains démocrates appellent à la destitution de Trump, le président a besoin vraiment d'un front républicain très uni pour contre-attaquer. Pour trouver une issue, il a parlé devant la Maison-Blanche jeudi soir qu'il y avait trois options. On pouvait renvoyer à nouveau des troupes en Syrie, frapper la Turquie très fort avec des sanctions économiques ou bien être médiateur entre la Turquie et les Kurdes. Alors on sait que Trump il serait fort en médiation, n'est-ce pas? Mais en réalité, on ne sait pas trop. Les deux autres possibilités semblent peu probables. Trump avait déjà promis de retirer des troupes au Moyen-Orient pendant sa campagne électorale. Ça correspond apparemment à un vrai désir chez beaucoup d'Américains de vouloir voir les États-Unis non plus comme le gendarme du monde. Quant aux sanctions économiques, nous avons posé la question à Gunther Mayer. Il est professeur des études du Moyen-Orient à l'université de Mainz en Allemagne. Et lui, il pense que vraiment, c'est très peu probable.
From the perspective of Erdogan, this is just a joke. He knows quite well.
Il dit que c'est une blague.
Oui, il dit que pour Erdogan, l'idée de subir des sanctions économiques, c'est une blague, parce qu'il sait déjà que Trump n'a pas tenu sa promesse, par exemple, d'imposer des sanctions lors de la livraison du système antimissile russe, les S-400, à la Turquie. Rien. Il a menacé et après rien s'est passé. Il dit que Trump a intérêt à garder Erdogan au de l'OTAN et donc il est convaincu qu'il ne va pas exécuter ces menaces de sanctions massives.
Lucia Mouzel, Donald Trump a également joué à celui qui est pourtant son allié, le président brésilien Jair Bolsonaro, il y a joué un mauvais tour. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, sur Internet, on dit maintenant depuis hier que le Brésil, ce sont les Kurdes de l'Amérique latine pour les États-Unis. Cela n'a rien à voir avec la Turquie, mais l'affaire illustre ce comportement parfois erratique hein, du président américain. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Soudain, les États-Unis ont retiré leur soutien à la candidature brésilienne à l'OCDE après s'être prononcé très clairement pour son adhésion à l'organisation. Ce soutien a été vivement célébré par le gouvernement au mois de mars comme étant une énorme victoire diplomatique du Brésil, une victoire de la stratégie de s'aligner aux États-Unis en priorité. Mais tout d'un coup, on apprend que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a envoyé une lettre à l'OCDE pour retirer ce soutien en disant que cela se fera dans un autre moment ultérieur. Une vraie douche froide dans le dos, comme on dit en brésilien.
Alireza Manavzadeh, il semble que seuls les Européens s'opposent vraiment à cette opération turque. Ils accusent la Turquie de favoriser la résurgence de la menace djihadiste.
Tout à fait, car les pays européens subissent plus que les autres les répercussions des conflits dans cette région. Trump l'a dit clairement. Il a dit que c'est aussi une affaire européenne. Il a même dit qu'il va mettre fin à l'intervention de son pays dans ces conflits. Ceci dit, les Européens sont obligés de ne pas aller plus loin dans leur opposition à cette offensive, car Erdogan peut laisser affluer les réfugiés syriens vers l'Europe. Il y a aussi le danger de la libération des prisonniers djihadistes. C'est une arme que les Kurdes peuvent aussi utiliser contre l'inertie de l'Europe.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI, $100.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Le Vatican se réunit exceptionnellement pour discuter de l'avenir de l'Église catholique en Amazonie. Lucia Mouzel de la rédaction en brésilien participe à ce synode des évêques, des prêtres, mais également des scientifiques.
Oui, le sommet de l'Église se réunit pour 3 semaines avec la participation des populations de 9 pays amazoniens, des leaders indigènes, des religieux, des habitants, représentants du gouvernement locaux, bref, des chercheurs, tous y sont pour essayer d'aider l'Église catholique à faire face à l'avancée spectaculaire des évangéliques dans l'Amazonie, un phénomène qui touche tout le Brésil depuis au moins 2 décennies. Notre reporter Elcio Ramalho est parti en Amazonie à la rencontre de ces prêtres qui se sentent parfois impuissants car les distances sont colossales et les moyens humains et financiers très limités. Elcio a interviewé le prêtre Robert, un Français qui vit depuis plus de 40 ans.
A urgência para mim é a necessidade de formar os cristãos que moram na messe, nas aldeias, dar uma formação boa.
Que raconte-t-il?
Pour lui, il faut former les fidèles catholiques qui sont déjà sur place pour qu'ils puissent assurer l'activité des églises au sein des communautés très lointaines et indigènes aussi. Il souligne que les pasteurs évangéliques poussent très fort avec cette stratégie, cette présence en continu. Et c'est pour cela qu'ils ont de plus en plus de fidèles en Amazonie.
Alors parmi les propositions évoquées pour faire face à cet enjeu, il y a l'ordination d'hommes mariés, également plus de place à faire aux femmes dans l'église. Est-ce que le Vatican est prêt à aller aussi loin?
On va le voir, hein. Ces questions sont cruciales. Les pasteurs mariés font partie, bien sûr, de la stratégie évangélique qui n'interdit pas le mariage des prêcheurs, au contraire. Mais pour l'Église catholique, c'est beaucoup plus compliqué. Le prêtre Oziel nous explique cet enjeu.
Je visite une fois par an les communautés, parce que ce sont 33 communautés indigènes, loin de l'une à l'autre.
Alors, que dit-il?
Dans ce contexte actuel, il ne peut visiter qu'une fois par an chaque communauté locale et indigène de sa région. Lui et 3 autres prêtres sont en charge de plus de 200 communautés différentes, très éloignées les unes des autres. Prêtre Oziel est un grand partisan de l'idée de l'ordination d'hommes mariés pour l'Église. Et concernant la place des femmes, c'est pareil. Très souvent, faute de personnel, elles sont les seules à pouvoir propager la parole de l'Église dans les communautés isolées ou les banlieues. Elles attendent à des avancées sur la possibilité d'être transformées officiellement en diaconesses. On va écouter Cleusa da Silva, une de ces femmes, une enseignante à l'origine et qui prend en charge 20 de fidèles proches de Manaus.
Le travail ne va pas désanimer. Ah non, le synode non.
Elle assure que même si le Vatican décide de rester en retrait sur cette question des femmes, elle va continuer à exercer son travail. Mais pour Madame da Silva, il n'y a pas de doute, c'est l'Église catholique qui perd, car elle n'arrive même pas à être présente où les pasteurs évangéliques sont très installés avec leur famille, c'est-à-dire partout en Amazonie.
Et puis, à ce synode est évoquée la crise environnementale, hein, suite au scandale des nombreux feux en Amazonie de cet été. Comment est-ce que l'Église catholique peut-elle aider à protéger la forêt, si elle le peut d'ailleurs?
En ce moment, c'est compliqué car le synode a lieu au moment même où les relations entre le Vatican et le gouvernement brésilien sont les plus difficiles jamais enregistrées. Bolsonaro considère le pape François un communiste et le président brésilien n'est pas du tout prêt à coopérer avec lui. De son côté, le pape argentin a déjà dit que le pire obstacle à la préservation de la forêt, ce sont les intérêts politiques et économiques des élites brésiliennes. D'autre part, il y a la question sensible de la colonisation des peuples indigènes. Le pape François a encore une fois regretté cette pratique de conversion forcée au catholicisme, qui pendant des siècles a dévasté des civilisations, dit-il. Maintenant, l'approche est beaucoup plus respectueuse des Indiens isolés qui souhaitent rester à l'écart de l'homme blanc.
Voilà pour ce synode consacré à l'Amazonie. Lucien Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. En Iran, cette semaine, quelques 3500 supportrices ont eu la permission d'assister à un match de qualification pour le Mondial de football de 2022. Ali Reza Manavzadeh de la rédaction persane, c'est un événement sans précédent depuis l'instauration de la République islamique en Iran et il se passe beaucoup d'autres choses dans le pays.
Oui, c'est un événement au sens historique du terme, car il se nourrit d'un passé, je dirais même, d'un passé glorieux. Il est en quelque sorte une conquête à la suite des luttes acharnées qu'ont menées les femmes iraniennes depuis 40 ans pour avoir les mêmes droits que les hommes. Écoutons ce que dit Raha Pourbakhsh, une journaliste sportive.
Que raconte-t-elle?
Alors, elle dit, la dernière fois que je suis entré dans le stade Azadi, c'était il y a 25 ans. C'était avec mon père, j'avais 7 ans. Et là, ce sera la première fois que je vais à ce stade en tant que femme. Je n'arrive toujours pas à croire que cet événement va se produire après avoir travaillé tant d'années comme journaliste sportif.
Ali Reza, il y a aussi les pressions de la FIFA sur le gouvernement iranien pour que les Iraniennes soient autorisées donc à assister à ces matchs de football.
Tout à fait. La FIFA avait de bons arguments pour faire pression sur le gouvernement iranien. L'autorisation donnée aux femmes d'assister à un match de foot survient peu de temps après la mort tragique d'une jeune femme de 29 ans qui s'est immolée mi-septembre. Elle s'était déguisée en homme pour pouvoir entrer dans le stade Azadi de Téhéran. Elle s'est donnée la mort après avoir été informée qu'elle était condamnée à la prison ferme. La vague d'indignation et d'émotion qu'a suscité sa mort a conduit la FIFA à faire une forte pression sur l'Iran.
Alors Amnesty International parle d'une opération de communication cynique, car elle reproche au gouvernement iranien de ne proposer à la vente qu'un nombre finalement limité de billets à ses femmes, à ses supportrices.
Exact. Elle a demandé aux autorités iraniennes de lever toutes les restrictions concernant la présence des femmes dans les tribunes des stades de foot. Oui, elle a écrit sur son site que c'est une opération de communication cynique de la part des autorités qui cherchent à redorer leur image à la suite du vif tollé suscité dans le monde entier par la mort tragique de cette jeune femme.
Oui, qui s'est donc immolée il y a de cela quelques jours. Ali Reza Manafzadeh de la rédaction persane de RFI. Et de la musique à présent dans Accent du Monde. Pour cela, Alison Heard, vous nous emmenez au bord du fleuve Niger et dans les rues étroites de la Havane. Ça fait de la route, hein?
Oui, deux grands pays, le Mali, le Cuba. Écoutons un extrait de Ali Faka Touré, de son dernier album Savane, enregistré en 2006.
Mais dans d'autres pays...
Dites-nous en plus, Alison.
Donc, c'est pas tout nouveau. Évidemment, il a enregistré juste avant sa mort en 2006. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une version remasterisée, maintenant disponible en vinyle. Et ça fait partie de 4 albums. C'est des bijoux de la musique du monde, produits par le très grand producteur anglais, Nick Gold, du label World Circuit Records. Donc, il vient de republier 4 albums. Nick Gold, c'est celui qui nous a fait connaître non seulement Ali Faka Touré, mais aussi la diva du chanson Wassoulou, Oumou Sangaré, Cher Lo du Sénégal, plus récemment Fatou Diawara, beaucoup de gens d'Afrique d'Ouest, mais aussi du Cuba comme Buena Vista Social Club avec Ray Kuda.
Et vous avez rencontré Nick Gold cette semaine.
Oui, ça fait 30 ans qu'il fait résonner des échanges et des histoires politiques et musicales. Et ce que je trouvais fascinant, c'est que même si Ali Faka Touré est devenu très grand, très connu, Buena Vista Social Club aussi, bien sûr, ces musiciens n'attendaient pas l'approbation de l'Occident, dit Nick Gold.
I felt very privileged and lucky rather than having a nose.
Dites-nous.
Donc il dit qu'il a eu le privilège vraiment de travailler avec de si grands musiciens au Mali et au Cuba. Et les Maliens et les Cubains ont la particularité vraiment de savoir, d'être tout à fait conscients de la valeur de leur musique. Ils sont très fiers et quand il dit, quand je leur faisais des compliments, ils me disaient « mais oui, on le sait hein. ». C'est assez marrant.
Alors Nick Gold a en quelque sorte découvert le Buena Vista Social Club en 1995.
Oui, il a enregistré les musiciens des stars des années 50 et 60 qui étaient plutôt à la retraite. On connaît l'histoire maintenant. Ils ont sorti un film après. L'album est devenu le plus vendu dans l'histoire des musiques du monde. Mais là aussi, il faut un petit peu remercier Ali Faka Touré.
He also introduced me to a lot of other music.
Donc il dit que c'est grâce à Ali Faka Touré qu'il a pu enregistrer Toumali Diabaté ou Mou Sangaré. Il m'a encouragé, il dit, écoutez des musiciens cubains, dont Buena Vista Social Club. Il est devenu très important pour moi comme une espèce de scout musical non officiel. Il était une véritable inspiration. Alors l'album que Nick Gold vient de ressortir, c'est Buena Vista Social Club Presents par Omara Portuondo. Elle était la seule femme à avoir joué dans le club. Écoutons un petit morceau.
Alison, cette femme, 88 ans.
Ouais, et qui vient normalement de faire son dernier concert, mais Nick Gold pense que ça serait pas la dernière, elle est trop grande. Pour finir, et juste pour info, Nick Gold passe dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer le 20... Oui, bien sûr, sur RFI, le 20 octobre, vous pouvez donc vous régaler en français.
Alison Heard, de la rédaction en anglais de RFI, ainsi se termine Accent du Monde en musique.